Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, est passée à la postérité comme l'une des plus grandes favorites royales de l'Ancien Régime. Elle était en charge des plaisirs du roi Louis XV, accablée par un état dépressif permanent. On lui prête aussi une grande influence sur la politique, à tort ou à raison. Ce qui est certain, c'est qu'elle a été une sorte de ministre de la culture. C'est l'histoire passionnante et pleine de rebondissements de cette favorite qui a marqué la France que je vais vous raconter dans un récit en deux épisodes. Madame de Pompadour, plaisir et politique à Versailles. Épisode 1, l'émissaire de la bourgeoisie. Nous sommes à Versailles le 14 septembre 1745. Jeanne-Antoinette Poisson, marquise de Pompadour, la nouvelle maîtresse du roi Louis XV, est officiellement présentée à la cour. Tous les courtisans se bousculent dans les appartements du roi pour apercevoir cette jeune beauté de 23 ans qui a fait tourner la tête du souverain. On la jalouse bien sûr, mais surtout, on la méprise. Elle vient juste d'être anoblie par le roi. C'est une bourgeoise! La princesse de Conti, fille légitimée de Louis XIV, a accepté de jouer sa marraine pour l'occasion à condition que le roi éponge ses dettes. Chaque personne qui fait son entrée à la cour doit en effet être présentée par un courtisan et personne n'avait envie d'y introduire une parisienne. Après une salutation à Louis XV, la marquise est conduite dans le grand appartement de la reine Marie Leszinska. La cour frémit d'impatience. Elle a hâte de voir comment la souveraine va recevoir sa rivale. Jeanne-Antoinette Poisson naît à Paris le 29 décembre 1721. Sa mère, Louise Madeleine de la Motte, est connue à travers tout Paris pour sa beauté proverbiale. Son père, François Poisson, s'est fait une place dans la haute bourgeoisie de la finance en étant nommé commissaire aux vivres du ravitaillement de Paris en collaboration avec les frères Paris, les rois des banquiers, pour ne pas dire les banquiers des rois. Mais ce père trop gourmand détourne manifestement de l'argent public ou touche trop de pots de vin. Il a dû fuir la France pour échapper à une condamnation judiciaire. Madame Poisson et ses enfants se mettent sous la protection de son amant, le financier Charles-François Lenormand de Tournehem, qu'on prononce Tournehain à l'époque. Certains diront même qu'il était le vrai père de Jeanne-Antoinette. La jeune bourgeoisie financière du XVIIIe siècle est si riche qu'elle peut largement concurrencer la vieille noblesse française sur le plan économique. Elle s'attache maintenant à la concurrencer sur le plan politique, mais le pouvoir est à Versailles, et pour y résider, il faut avoir ses quartiers de noblesse. C'est ainsi que très jeune, Jeanne-Antoinette va devenir un pion au service des ambitions de son clan. On raconte qu'à 9 ans, une diseuse de bonne aventure lui aurait prédit qu'elle serait aimée d'un roi. D'ailleurs, sa famille et elle font tout pour que la prédiction s'accomplisse. D'abord, elle reçoit la meilleure des éducations. Elle est formée aux arts d'agrément, la musique, la danse, le chant et le dessin, et montre de véritables dispositions pour ces disciplines. À 20 ans, elle est mariée à Charles-Guillaume Lenormand, le neveu de l'amant de sa mère. Le couple vit entre son hôtel particulier à Paris et le château d'Étiole en forêt de Sénart, un bois giboyeux où le roi passionné de chasse poursuit les cerfs. C'est au début des années 1740 que les proches de Tournehem à la cour s'emploient à mettre Jeanne-Antoinette sur le chemin du roi. Il faut voir Versailles comme un nid de vipères. La noblesse y vit dans l'objectif de s'y divertir et de se rapprocher au plus près du pouvoir. Oisiveté et ambition font un cocktail d'une rare perversité. Et puis, après avoir donné 10 enfants au roi, la reine lui explique qu'elle ne partagera plus son lit. Une grossesse supplémentaire pourrait lui être fatale. À partir de 1737, le roi s'autorise donc à prendre des maîtresses. Enfin, La fonction de favorite, aussi instable soit-elle car soumise aux désirs du roi, revient aux filles des grandes maisons de France. La favorite est une sorte de bouc émissaire. C'est elle qu'on déteste à la place du roi, et c'est bien pratique dans une monarchie de droit divin où il n'est pas permis de critiquer le roi, puisque c'est Dieu qui l'a placée à sa place. Elle est aussi en capacité d'influencer la politique du roi, c'est-à-dire de favoriser la montée au pouvoir de sa faction à la cour. Les premières à occuper ce poste aussi prestigieux qu'ingrat sont les sœurs de Nel. Au moins trois d'entre elles ont partagé le lit du roi Louis XV et il a aimé prodigieusement la troisième, Madame de Châteauroux, qui meurt dans des conditions étranges en 1744. Avec l'aide de Binet, le premier valet de la chambre du dauphin et cousin des Lenormand, Jeanne-Antoinette reçoit l'autorisation de suivre les chasses du roi dans la forêt de Sénart. On raconte que pour se faire remarquer, elle traverse le bois, un jour dans une robe rose, dans un phaéton bleu, un phaéton c'est un petit char tiré par deux ou quatre chevaux, et le lendemain, elle traverse le bois en robe bleue, dans un phaéton rose. À vrai dire, il semblerait que cette mise en scène ait été imaginée au XIXe siècle par les frères Goncourt. Quoi qu'il se soit passé, Jeanne-Antoinette s'est faite remarquer. Les chroniqueurs la décrivent comme une femme magnifique, grande de taille, fine, avec de beaux cheveux châtain clair, des yeux à la couleur indéfinissable, du charme à ne plus savoir qu'en faire et surtout une intelligence au-dessus de la moyenne avec un petit truc en plus, beaucoup d'intuition. En février 1745, Jeanne-Antoinette est invitée à Versailles pour un grand bal masqué, le bal des Ifs. Le roi apparaît dans la galerie des glaces déguisé en nif, et sept de ses amis aussi. Impossible de savoir lequel de ces hommes est Louis XV, et le vrai Louis XV en profite pour rechercher Madame d'Étiolle et lui jeter son mouchoir. Pour lui, c'est une manière de dire qu'il est très intéressé parce que notre Louis XV adore qu'on le séduise. Ce marivaudage se poursuit trois jours plus tard lors d'un bal à l'hôtel de ville de Paris. Jeanne-Antoinette est invitée à monter dans un carrosse où le roi l'attend. Celle qui faisait savoir dans tout Paris qu'elle ne tromperait son mari qu'avec le roi a été exaucée ce jour-là. Au printemps 1745, Madame d'Étiolle, âgée de 23 ans, est souvent invitée à Versailles par le roi qui, lui, en a 34. Tout le monde a bien compris qu'elle est sa nouvelle maîtresse et à la cour, on se bouche le nez. La poisson, cette petite bourgeoise aux dents longues, ne tiendra pas longtemps. Alors que Louis XV quitte Versailles pour se rendre en Flandre dans le cadre de la guerre de succession d'Espagne, Madame d'Étiolle passe l'été dans son château situé en Essonne, entourée d'amis qui la préparent à sa présentation officielle à Versailles. Elle doit apprendre tous les arbres généalogiques des familles de France. On lui apprend aussi l'étiquette, un ensemble complexe de règles qui régissent la vie de la cour. Qui a le droit, en fonction de ses titres, d'assister à tel événement, de parler à qui et de rester debout ou assis en présence du roi. Le 14 septembre 1745, enfin, Madame d'Étiolle, devenue marquise de Pompadour par la grâce du roi, fait son entrée officielle à Versailles. La princesse de Conti a accepté d'être sa marraine pour l'occasion, à condition que Louis XV lui donne de quoi éponger ses dettes. Après une présentation au roi, Madame de Pompadour est présentée à la reine. Les courtisans amateurs de spectacles acides espèrent que la reine sera odieuse avec la nouvelle favorite de son mari. Il n'en est rien. Marie Lesinska se montre très gentille avec la nouvelle venue. La marquise est installée dans un appartement relié à celui du roi par un petit escalier. Il prend l'habitude de la rejoindre après son coucher officiel, puis retourne dans sa chambre pour le lever. Un véritable miracle s'est produit. Jeanne-Antoinette, envoyée par la bourgeoisie pour noyauter Versailles, tombe réellement amoureuse de Louis XV et réciproquement. Le roi est un drôle de personnage. Il succède à son arrière-grand-père Louis XIV à l'âge de 5 ans. Il a été élevé pour siéger sur le trône, mais on lui a insidieusement refusé l'exercice du pouvoir. Le cardinal de Fleury, qui lui sert presque de père, a exercé le pouvoir pour le petit roi jusqu'à sa mort en 1743. Louis XV sait qu'il est l'homme le plus puissant d'Europe, mais ça lui semble un peu vide de sens. C'est un dépressif, dévoré par l'ennui, avec des accès de sadisme enfantin. Par exemple, il adore marcher sur les pieds des courtisans juste pour le plaisir de leur faire mal en sachant qu'ils n'oseront rien dire. Il a terriblement besoin d'être distrait et aimé. Voilà pourquoi il lui faut toujours les bras d'une femme entièrement dévouée à son bonheur. Et il n'y a que le bonheur de son amant qui compte pour Jeanne-Antoinette. Elle sait que la fonction de favorite est difficile. Dans ses lettres personnelles, elle s'en plaindra souvent et laisse entendre à demi-mot qu'elle aurait préféré être la reine plutôt que la maîtresse. Mais pour rien au monde, elle ne voudrait perdre sa place. Et pour la garder, elle doit se rendre indispensable. Et ce dont le roi a le plus besoin, c'est de plaisir. Madame de Pompadour commence par organiser des soupers privés qui rompent avec la tradition des repas en public de Louis XIV. Avec sa maîtresse, Louis XV vit en bourgeois. C'est même lui qui sert le café à table à la fin du repas à Trianon ou dans l'une des demeures de la Pompadour qui investit sa fortune dans l'immobilier. La première année de leur relation, le roi ne passe que 50 nuits à Versailles. C'est un scandale. C'est Jeanne-Antoinette qui choisit la douzaine d'invités présents au souper du roi. Ce repas devient un événement de privilégiés qui exclut une bonne partie de la cour. En maîtrisant l'entourage du roi, la poisson se fait détester. Elle organise aussi ses autres plaisirs et monte sa propre troupe de théâtre amateur à Versailles, une troupe où les femmes seules prennent toutes les décisions. C'est une véritable gynarchie. Être membre de la troupe du Théâtre des Cabinets est un honneur et assister aux représentations l'est tout autant. Les pièces se jouent dans une petite galerie qui peut accueillir une dizaine de spectateurs. Grâce à son succès, la Pompadour obtient vite un théâtre amovible avec toute une machinerie dans les escaliers des ambassadeurs. Les invités se voient distribuer une carte à l'effigie d'un personnage de la Commedia dell'arte. Sur scène, Jeanne-Antoinette rayonne. Pour les courtisans, c'est un privilège d'être à ses côtés dans ces moments. Un clan de courtisans jaloux décide de faire craquer les nerfs délicats de la favorite. Un jour, alors qu'elle rentre dans ses appartements, elle découvre qu'on a jonché le sol de poissons frais. Et puis viennent les poissonnades, des poèmes orduriers, mais très bien écrits, comme vous pouvez le constater. Par vos façons nobles et franches, vous enchantez les cœurs. Sous vos pas, vous semez des fleurs, mais ce sont des fleurs blanches. Le quatrain fait référence à une maladie gynécologique de Madame de Pompadour. La favorite est humiliée, elle craint que Louis XV ne se détourne d'elle. Pour connaître la suite de ce récit consacré à Madame de Pompadour, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.